Troisième temps donc de notre semaine consacrée à Cléopâtre, et durant toute cette saison, nous consacrerons des semaines comme cela thématiques autour de grands personnages dont nous tenterons de dénouer la réalité de leur vie et le mythe si c'est possible. Et c'est ce que nous avons essayé de faire cette semaine avec Cléopâtre. Lundi, Bernard Legras nous a décrit ce qu'était l'Égypte lagide, l'Égypte des Ptolémées dont Cléopâtre était la descendante, une Égypte selon Bernard Legras multiculturelle, grecque et égyptienne à la fois, mais également juive, et avec toutes les populations qui parcouraient ce Moyen-Orient, qui donc vivait dans cette Égypte lagide. Hier, nous avons expliqué comment notre regard était tributaire de ce qu'avaient écrit les historiens de Rome. Demain, nous tenterons de dire ce que nous savons de son action politique à Cléopâtre et de la société égyptienne de son temps. Et aujourd'hui, eh bien exceptionnellement, le documentaire, habituellement diffusé le mardi, un documentaire de Perrine Kervran et d'Anne Fleury sur le mythe de Cléopâtre.
Kaleidos Cléopâtre ou les 100 visages de Cléopâtre.
Non, c'est une petite stèle, hein. Elle doit faire à peu près, je sais pas, 50 cm de haut, 25 de large.
Oui.
La fameuse stèle où on voit Cléopâtre.
Oui, enfin, on voit Cléopâtre, en tout cas, on voit son nom.
Marc-Étienne.
Ensuite, de savoir si c'est elle, c'est un document qui est considéré, en fin de compte, comme une des premières représentations de la reine, mais sous un aspect qui est un petit peu inhabituel. Elle n'est pas représentée donc sous l'aspect d'une femme, mais sous l'aspect d'un homme. Elle est vêtue d'un pagne, elle porte donc la couronne qu'on appelle le pchen, qui est la réunion de la couronne de Haute et de Basse-Égypte. Le texte que vous voyez en dessous mentionne que le souverain est Cléopatra, donc Théa Philopator, donc Cléopâtre, déesse, celle qui aime son père. Vous avez dans la partie supérieure du cintre la zone qui correspond au tableau d'offrande. Donc ici, la déesse Isis, assise donc sur un trône en train d'allaiter son fils, l'enfant Horus. Alors ce serait l'un des plus anciens monuments que l'on ait de la reine Cléopâtre régnant seule, mais qui reprend, et ça c'est un détail assez intéressant, une tradition égyptienne, c'est-à-dire qu'on a plusieurs exemples dans le département où il n'est pas choquant, en fin de compte, pour une souveraine égyptienne, bien que femme, d'apparaître en homme, en tout cas avec ce qu'on appelle les régalias, c'est-à-dire les insignes du pouvoir, pagne avec la queue de taureau cérémoniel et la couronne. Et là, on voit donc quelque chose qui va transparaître tout au long du règne donc de Cléopâtre, c'est son attachement à des traits proprement caractéristiques de la civilisation pharaonique.
Sur fond de palmiers ou de papyrus, de face ou de profil, sur du détergent, du savon, de la colle, des cosmétiques, dans des peplums en costume, des pièces de théâtre, des opéras, des bluettes érotiques ou des films pornographiques, coiffés d'un cobra, vêtus de tuniques antiques ou offertes, dans la transparence de voiles vaporeux, dans une piscine de lait, dans des palais de marbre en train de boire du vinaigre perlé, ou éventés par des esclaves quand elles n'essaient pas des poisons ou qu'elles ne s'exercent pas au tir à l'arc sur eux. Cléopâtre a tout fait, tout vendu, tout raconté. Elle est la femme fatale qui mène Rome à sa perte, l'amoureuse sacrificielle, la nymphomane perverse, la reine courageuse qui choisit la mort plutôt que la défaite et l'humiliation, la magicienne cruelle et ensorceleuse, la reine d'Égypte, la dernière des Ptolémées, la pharaone grecque, et bien entendu, elle est aussi un peu Lystellore. Personnage familier, tantôt brune, tantôt blonde, égyptienne ou grecque, mais malgré un nez légendaire, son visage nous échappe pour toujours. Irène Frein.
Dans le propos qui était le mien, c'est-à-dire une biographie strictement historique et non romanesque, je me suis bien entendu demandé à quoi elle ressemblait. Et on a des éléments pour le faire très simples. Sont les monnaies. Il y a un nombre de monnaies qui ont échappé à ce que Octave Auguste avait voulu faire à la mort de Cléopâtre, tout simplement ce qu'on appelle une damnatio memoriae, c'est-à-dire condamnation de la mémoire, en quelque sorte. Il a fait disparaître tous les témoignages, statues, inscriptions. Et donc, on voit sur ces monnaies qu'elle a, on va commencer par le plus important, le nez. Bien, le nez, c'est tout simplement celui des lagides, un nez en bec d'aigle. On le sait parce qu'on a d'autres monnaies de son père, d'autres prédécesseurs, femmes ou hommes, et donc ce nez revient. L'aspect physique de Cléopâtre va changer selon les âges, évidemment, on s'aperçoit que lors de sa liaison avec Antoine, notamment, elle frappe pas mal de monnaie. À ce moment-là, elle est beaucoup plus parée. Elle a une trentaine d'années, ce qui est âgé pour le premier siècle avant Jésus-Christ. Et moi, j'avais trouvé ça assez intéressant parce que, avec César, elle avait été dans une relation d'égal à égal, hein, intelligence contre intelligence. Avec Antoine, c'est la passion réciproque. Comme toutes les femmes qui ont peur du vieillissement, elle en remet dans la parure, etc. Ce qu'on sait aussi par des témoignages, c'était que c'était une femme de petite taille. Plutarque est très clair quand il fait son portrait, il dit qu'elle n'était pas belle, mais elle avait quelque chose de plus, elle avait, alors le mot en grec c'est kentron, un aiguillon. C'est-à-dire qu'en fait c'était une fille qui avait du charme, qui avait du sex appeal. On peut imaginer une femme tamate, grecque, très fière d'être grecque, donc avec un port altier malgré sa petite taille. C'est une femme sportive, elle sait nager, elle sait barrer un bateau, le conduire, elle sait faire du cheval. Et elle avait beaucoup d'humour. Il est vraisemblable que dans sa liaison, aussi bien avec César qu'avec Antoine, le fait de faire rire les hommes a beaucoup joué. Et en même temps, elle parle cette langue, hein, et sauf le latin qui est une langue de bouseux.
Observe, César, a most unusual design.
Well, well.
Greetings to Caesar from Egypt.
Very amusing joke.
Donc c'est Claudette Colbert, tout à fait femme-enfant, très joyeuse, qui éclate de rire. Elle est relativement dénudée puisqu'elle a seulement une espèce de petit soutien-gorge qui fait plus penser à un soutien-gorge de maillot de bain. Et en même temps, le bas de la robe qui est en lamé, tout à fait années 20, également années 30 plus exactement. C'est une scène qui est amusante.
Life is a precious thing, isn't it?
I think so. Hadn't you better put that javelin down?
Grecque ou égyptienne, Cléopâtre est un mythe. Presque une coquille vide que chacun peut remplir des fantasmes et des peurs du moment. Son histoire est comme un conte. Une succession de scènes figées pour toujours dans la mémoire collective. Sa rencontre avec César, qu'elle arrive à approcher, roulée dans un tapis. Son arrivée triomphale à Rome. Sa fastueuse entrevue avec Marc-Antoine à Tarse, à bord d'un bateau où elle l'ensorcellera, la très précieuse perle qu'elle dissout par défi et par ennui dans le vinaigre, la mort de Marc-Antoine qu'elle hisse dans son tombeau et le suicide aux aspics et au panier de figues. Autant de scènes utilisées au départ pour la noircir et légitimer le pouvoir romain en place. Une légende noire et tenace, transmise à travers les siècles, alors que la légende dorée de l'Orient, d'une reine sage et savante, ne fait quasiment pas partie du bagage culturel occidental. Prétentieuse, manipulatrice, dispendieuse, lascive, orgueilleuse, savante, sacrificielle, brillante, elle a tant été imaginée, déformée, réinventée, qu'elle a fini par perdre de sa réalité.
Du XVIe siècle à aujourd'hui, les éléments constitutifs de ces visages de Cléopâtre sont très peu nombreux.
Jean-Marcel Imbert.
Tout d'abord, c'est la personnalité de Cléopâtre. C'est également sa beauté, réelle ou supposée. Et puis, c'est son sort de princesse malheureuse. Le public adore les princesses malheureuses. Et puis, sa fin tragique. Alors, voici par exemple Plutarque dans « La vie d'Antoine ». Les propos qu'elle énonce, vifs et intelligents, sont dits d'une voix suave qui assaisonnait tout ce qu'elle disait et tenait sous son charme les auditeurs qui ne pouvaient échapper à sa prise.
D'ailleurs, elle fait partie d'une espèce de collège, que ce soit Sophonisbe, que ce soit Lucrèce, toutes celles qui, d'une certaine manière, sont poussées vers la mort, par amour d'une certaine manière aussi. Et puis, bien sûr, elle va aussi rentrer dans la légende littéraire, comme une grande amoureuse, c'est certain.
Voilà, donc les deux. Il y en a une ici, donc qui correspond à celle qui est au musée du Louvre, et donc une variante à droite.
Donc on est au musée Gustave Moreau, qui était aussi l'atelier, l'hôtel particulier de Gustave Moreau, et on est donc devant des sortes
de pages comme les pages d'un livre. Ce sera un gros livre avec des pages encadrées de bois. Et dans ces pages sont enchâssés les dessins de Gustave Moreau. Il y a donc des dessins préparatoires de Cléopâtre.
Oui, voilà. Des dessins préparatoires pour l'aquarelle qui est aujourd'hui conservée au cabinet des dessins du musée du Louvre.
Dimitri Casali, on est donc devant une Cléopâtre très altière qui regarde au loin avec un certain détachement le Nil. Elle est peut-être sur une terrasse de son palais, elle est très dénudée. On voit qu'elle attend la mort sans inquiétude particulière.
Le mythe universel de Cléopâtre est absolument insaisissable, tant ses personnalités sont multiples. Elle peut être à la fois, et bien sûr, la femme fatale, ça c'est certain, la femme enfant, ensorceleuse, quand elle séduit César. C'est la première femme moderne parce qu'on peut dire qu'elle a la prétention de se hisser à la hauteur des hommes. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Horace et Virgile qui ont beaucoup participé plutôt à cette légende noire de Cléopâtre qui est très importante, puisqu'aussi ils en ont fait une femme particulièrement sensuelle et sexuelle aussi, puisqu'elle incarne avant tout la beauté et le désir.
Indiscutablement d'origine macédonienne, pas de sang égyptien officiellement admis, au moins. Réputée pour sa brillante intelligence et son esprit d'ailier, la reine Cléopâtre a beaucoup lu. Elle est versée dans les sciences naturelles et mathématiques. Elle parle 7 langues avec la même facilité. Si ce n'était pas une femme, elle serait considérée comme un intellectuel. Pour atteindre ses objectifs, Cléopâtre n'hésite pas à employer la torture, le poison et même ses raffinements amoureux qui sont, paraît-il, innombrables. Ses amants se classent plus facilement par des numéros que par des noms. Car on dit qu'elle les choisit à la façon d'un homme, plutôt que d'attendre qu'on la choisisse selon l'usage féminin.
Irène Frein, pour écrire ce livre, vous êtes penchée sur toutes les sources anciennes qui, pour la plupart du temps, sont assez négatives vis-à-vis de Cléopâtre. Comment faire le tri dans ce qui est déjà presque une légende en train de s'écrire à l'époque ?
La légende, elle a été écrite à 2 reprises. D'abord par la tradition romaine dès l'époque augustéenne. Il faut imaginer qu'après la mort d'Antoine et de Cléopâtre, il y a eu un immense soulagement à Rome et dans la société romaine du fait que Octave Auguste a promis la paix universelle, ce qui était une attente depuis plus de 50 ou 60 ans. Enfin, ce monde était totalement déchiré. Donc à partir de ce moment-là, Octave Auguste, il a désigné un facteur de trouble, et ce facteur de trouble, c'était l'Orient. Et l'Orient symbolisé par le Fatale Monstrum, le monstre porteur de mort, qui était la femme Cléopâtre, qui porte en elle tout le mystère de l'Orient. C'est l'irrationnel, c'est la porte de l'inconnu. Et puis Cléopâtre se voulait l'héritière d'Alexandre. César allait devenir le second inimitable après Alexandre. Et bien entendu, elle aurait été la femme inimitable, hein, puisqu'ils étaient sur un pied d'égalité. Donc ça a échoué à cause des idées de Mars. Mais avec Antoine, elle a repris le rêve. Et donc, il est important pour Octave Auguste de dire « Non, c'est moi, le véritable inimitable. » Donc, il a besoin d'un contre-type. Il faut absolument qu'il la détruise. Et donc, c'est à ce moment-là que va naître la première légende noire.
On l'a accusé d'avoir détourné Marc-Antoine de ses devoirs et de sa virtus, donc d'un certain amollissement qui ne correspondait plus du tout au prototype donc de la romanité. De ce fait, la cause de cet éloignement ne pouvait être que sexuelle, c'est-à-dire que Cléopâtre devient une méritrix, donc une prostituée qui consume en fin de compte les qualités morales de Marc-Antoine par justement les plaisirs de la table, de la chair, du divertissement, de l'orientalisation en fin de compte de cet homme qui quitte Rome pour aller s'installer à Alexandrie, qui cesse d'être romain.
Quels sont les auteurs qui, les premiers, s'attaquent à construire cette légende ?
Alors, les premiers auteurs sont probablement les poètes du cercle de Mécène.
Philippe Boyer.
Qui a rassemblé en fait autour d'Octavien un certain nombre de poètes qui les protègent. Hein, donc le mécénat, ça vient de ce personnage-là. Auguste, le futur Auguste, est le protecteur de ces poètes. Et ils vont en fait chanter ses louanges et faire une sorte de propagande. Mais les premiers vont être effectivement Properce, Virgile et des gens du cercle de Mécène.
La deuxième légende, tantôt blanche, tantôt noire, c'est celle de Plutarque. qui va recueillir les confidences que son grand-père a reçues d'un médecin qui était au palais d'Alexandrie dans les derniers jours de Cléopâtre. Et il va y avoir un portrait beaucoup plus objectif de Cléopâtre. C'est lui qui va parler de son côté sexy. Il va donner suffisamment d'indications pour qu'on voit la complexité du personnage. Et notre Cléopâtre à nous, c'est plutôt celle qui est héritée de Plutarque, parce que Plutarque, on va l'oublier pendant des siècles, et on va le redécouvrir qu'à partir de la chute de Constantinople, vers la fin du XVe siècle, quand Constantinople va tomber, on va trouver les manuscrits grecs de Cléopâtre, Amyot va les traduire, et Shakespeare va les découvrir. Et à partir de ce moment-là, on va plus du tout se contenter de la légende noire de l'Antiquité romaine, on va se poser la question des rapports de la séduction et de la politique. D'où la question de Pascal, le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde en eût été changée.
Curieuse façon de porter un tapis. Ne serait-il pas plus aisé de le jeter sur ton épaule?
C'était moins confortable de cette façon.
Dans une vaste chambre d'un fastueux palais de marbre, César, en tenue militaire, est entouré de ses proches conseillers. Il vient de s'installer à Alexandrie, dans le palais de Cléopâtre qui a disparu, écarté par son frère. Soudain entre un homme barbu, vêtu à l'oriental. Il porte sur son épaule un tapis. C'est un cadeau pour César et il va le déposer à ses pieds.
C'est moi, César. Pose-le là devant moi. Je te demande pardon, tu es l'amiral Agrippa, mais tu n'es pas César. Ni toi non plus, général Rufio, ni toi, Germanicus. Et le présent de ma reine et pour les yeux de César.
Le messager qui apporte le tapis, dans lequel est roulé, bien entendu, Cléopâtre,
Daniel Lançon,
montre une connaissance du contexte politique en nommant chacun des intervenants romains de la salle. Et on voit tout de suite comment le contact entre les deux mondes sera un contact à hauteur d'intelligence stratégique. En fait, il est évident qu'il va être question de politique dans cette scène.
Ce glaive, César. Le tissage du tapis délicat et précieux. Est-ce que je peux le dérouler pour toi?
Tourne-le de l'autre côté d'abord.
Et bien entendu, lorsque le tapis est déroulé, l'effet féminin, l'effet de reine d'Égypte, de reine orientale, s'introduit dans la discussion stratégique. Immédiatement, Cléopâtre situe la question dans un discours. Dans un échange de discours, lui rappelant qu'elle est reine d'Égypte, qu'elle a des prérogatives, qu'elle est chez elle, d'une certaine manière. C'est ici mon palais, César. Tous les appartements y sont donc à ma disposition. Je ne suis pas ta prisonnière. Disons plutôt que tu es mon hôte.
Bien aimable.
Quant à ce que tu appelles faire préparer mes appartements, ma première camériste a déjà dû faire sortir les autres de leur cachette. Elles doivent avoir presque fini.
Ce n'est guère possible. Il y a des sentinelles à toutes les grilles.
Il y a grille.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi les auteurs, les quelques très rares auteurs qui n'appartiennent pas au monde romain, eh bien, Cléopâtre bénéficie d'une image un petit peu meilleure. Il va y avoir, si je me souviens bien, Tertullien, dans un ouvrage destiné en fait à conforter le courage des martyrs chrétiens qui vont mourir face au lion. Au IIe siècle, Tertullien rédige Ad Martyras. Donc, il s'adresse à des futurs martyrs chrétiens, en quelque sorte. Et il tâche de les consoler de ce qui les attend en exaltant des exemples d'héroïsme et de courage face à la mort. Et donc, il prend l'exemple de Cléopâtre. Donc lui, par son appartenance à la communauté chrétienne, est un petit peu en dehors de la tradition romaine. C'est le cas également de la reine Zénobie au IIIe siècle, reine de Palmyre, qui est en révolte contre Rome. Ça va mal se terminer pour elle. Mais elle va reprendre à son compte en fait, l'image de cette grande Cléopâtre. Et puis, on va avoir, au Xe siècle, un ouvrage rédigé par un encyclopédiste chiite qu'on appelle Al-Masoudi et qui va rédiger un ouvrage appelé Les Prairies d'Or. Alors, c'est quelque chose d'encyclopédique qui touche un petit peu à tout, qui parle de tout et de rien. Et entre mille autres choses, il parle un petit peu de Cléopâtre et de la dynastie des Grecs ayant régné en Égypte. Et alors, la reine est présentée de manière complètement différente. C'est-à-dire que c'est issu d'une tradition proprement orientale qui a dû subsister, dont on n'a pas de traces, mais qui est plutôt positive concernant Cléopâtre. Et elle est présentée comme la détentrice du savoir et de la sagesse grecque, versée dans les sciences, adonnant à la philosophie, etc., etc. Il y a à la fois cette image de femme indépendante, de femme sans homme. Son avatar mythologique le plus connu, c'est l'image des Amazones. C'est une image qui est présente dans le récit, dans le mythe cléopatrien, alors essentiellement par le biais de son courage face à la mort. Et c'est vraiment le point positif, même chez les poètes du cercle de Mécène, il lui concède au moins ça, c'est ce courage face à la mort, et paradoxalement, ça la rapproche d'une figure dont pourtant les Romains, notamment à l'époque d'Octave, ont essayé de faire l'antithèse de Cléopâtre, c'est la figure de Lucrèce.
Claude Richard, nous sommes donc devant des reproductions de tableaux de la Renaissance. Ce sont des galeries de femmes fortes qui posent debout dans des décors naturels et elles représentent des vertus.
Les vertus, c'est l'intelligence et le courage. Et c'est vrai qu'elles en font partie. Il y a des tableaux, il y a de Beccafumi par exemple, montrant Cléopâtre, debout, magnifique, tenant la spique contre son sein. Il y a très souvent dans la peinture des pendants du même peintre entre Cléopâtre et Lucrèce. C'est peut-être l'association la plus fréquente, parce que les deux ont préféré se suicider plutôt que de connaître une forme de déshonneur.
Ce qu'on peut remarquer aussi, Claude Richard, c'est que ces tableaux n'ont rien de tragique. Ce sont des femmes qui sont représentées là, presque comme des saintes, on pourrait dire.
Oui, absolument, absolument. Dans la plupart des cas, elles sont absolument sereines, abordant la mort avec sans expression, quelque part. Je veux dire, elles n'ont pas un sourire radieux, mais elles sont un peu sans expression. Elles sont simplement fermes, courageuses devant la mort qu'elles ont choisie.
Il y a un tableau qui, lui, est de 1540, de Giovanni Battista di Jacopo. Et là, on voit effectivement Cléopâtre presque en extase.
Elle est mordue au bras. Elle n'est pas vraiment encore morte. Sinon, son bras serait retombé. Mais c'est vrai qu'elle a une position comme ça, en attendant la mort, qui est une position d'extase. C'est assez typique quand même d'une certaine peinture de martyr, si je puis dire, qui à la fois combine à cette époque l'attrait de la nudité, elle est d'une très grande beauté, et puis en même temps une espèce de consentement comme ça au martyr. Elle a la tête inclinée, les paupières fermées, elle a l'air de partir pour un long voyage qui au fond lui convient très très bien, va l'ouvrir des portes paradisiaque peut-être.
Après avoir exhalé ses lamentations, Cléopâtre couronna le tombeau et l'embrassa, puis se fit préparer un bain. Elle se baigna, s'allongea et prit un déjeuner magnifique. Alors un homme arriva de la campagne avec un panier. Les gardes lui demandèrent ce qu'il contenait. Il l'ouvrit, écarta les feuilles et leur fit voir que la corbeille était pleine de figues. Après le déjeuner, Cléopâtre, qui avait sur elle une tablette écrite et scellée, l'envoya à César, puis elle fit sortir tout le monde, sauf les deux femmes dont j'ai parlé, et ferma la porte. Dès que César eut ouvert la tablette et qu'il vit que Cléopâtre demandait avec des supplications et des lamentations à être enterrée avec Antoine, il comprit ce qu'elle avait fait. Tout s'était passé très vite. Les envoyés arrivèrent en courant, surprirent les gardes qui ne s'étaient aperçus de rien, ouvrirent les portes et trouvèrent Cléopâtre morte, allongée sur un lit d'or avec des habits royaux. Quant aux deux femmes, l'une nommée Iras était en train de mourir à ses pieds, l'autre, Charmion, déjà vacillante et chancelante, arrangeait le diadème autour de la tête de la reine. Quelqu'un lui lança avec colère « Voilà qui est beau, Charmion !»« Très beau, répondit-elle, et digne de la descendante de tant de rois. » Elle n'en dit pas plus et tomba là, au bord du lit. Et les morts de Cléopâtre, on les traite de manière très très différente depuis le XVIe siècle. Soit elle est extatique, soit elle est déjà à moitié endormie, soit elle est redressée, soit elle a l'air triste, soit elle a l'air de souffrir. Enfin vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a une originalité particulière du traitement du thème au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. C'est surtout au XIXe siècle, quand on va arriver aux grandes Cléopâtres étendues, qu'on va voir alors la Cléopâtre blanche, froide, déjà raidie dans la mort sur un lit égyptien.
Cléopâtre, de Cécile B. DeMille avec Claudette Colbert.
Vous pouvez nous décrire cette scène ?
On est dans une Égypte qui n'a, alors là pour le coup, plus rien d'égyptien. On est complètement dans un ensemble art déco. Ça pourrait aussi bien être à la limite un restaurant ou un paquebot de l'époque. Et Cléopâtre n'est pas dans son lit. Elle a choisi de mourir sur son trône. Donc c'est grandiose. Elle ouvre le panier de figues. Elle prend carrément le serpent. Elle n'y met pas la main. Donc elle prend le serpent. Elle le dirige vers son sein. Et voilà, le serpent l'a mordu. Elle est coiffée de la coiffure des reines d'Égypte, la coiffure de la dépouille du vautour, mais là qui est traitée également en métal, c'est très métallisé. Et voilà, elle sent déjà les premiers effets du venin. Et là, elle se tient debout, roide, dans son trône, et ils vont découvrir une Cléopâtre morte, mais toujours présente et dans toute sa beauté, avec au-dessus du trône des ailes de vautour stylisées à la manière art déco.
Éternelle.
Tout à fait.
Le XVIIe français avait fait Cléopâtre une noble dame, une princesse parfois un petit peu précieuse dans certaines tragédies, ou dans certains romans, une généreuse héroïne cornélienne, par exemple. Or, au XVIIIe siècle, les attaques contre Cléopâtre, le visage d'une femme orientale luxurieuse et menaçant l'identité européenne, au fond, se réarticule, se réintroduit. Nous sommes, je vous le rappelle, quelques années avant le début de la Révolution française. On estime que la bassesse des personnages rend le sujet impraticable sur la scène française.
Peut-être on peut revenir sur cette question du XVIIIe siècle avec la question de Shakespeare. Shakespeare a écrit donc un Antoine et Cléopâtre qui n'a été traduit en France, je crois, qu'en 1779. Donc un texte qui a impulsé une image très négative. Le personnage de Cléopâtre est quelqu'un d'extrêmement versatile, cruel, ambitieux, parfois presque une femme enfant dans le texte de Shakespeare.
Quand la pièce est traduite en français, elle est traduite dans un contexte où on ne voit que les aspects que vous venez de souligner, qui existent effectivement dans la pièce, c'est-à-dire une femme dépréciée, une femme luxurieuse, qualifiée de noiraude, de bohémienne par les soldats romains dans la pièce même, et il y a de nombreuses paroles d'Antoine, évidemment, lui-même, qui se voit se perdre dans les fêtes, dans les débauches. Alors, c'est vrai qu'il y a tout ça dans l'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a tout pour satisfaire les tenants de l'ordre traditionnel. Il y a tout pour satisfaire l'ordre social romain, évidemment. Ça signifie l'ordre social français de 1770, mais il va y avoir la Révolution française après. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution des traductions de cette œuvre. Les premiers traducteurs sont, si vous voulez, sur la ligne des poètes de l'époque d'Auguste, c'est-à-dire ce sont des anti-Cléopâtre. Petit à petit, les traductions évoluent.
Enobarbus. Je puis vous le dire, la barque où Cléopâtre était couchée resplendissait comme un trône, incendiait l'eau. À l'arrière, une sirène, eût-on dit, tenait la barre, dont on voyait les cordonnets de soie au toucher des fleurs de ses doigts se tendre dans un prompt office. De toute la barque s'exhale une invisible vapeur parfumée dont les quais adjacents s'enivrent, vibrant du peuple qui déversait la cité. Vers elle, tout s'accourt, désertant la place publique où trône Antoine, autour de celui-ci, le vide. Il siffle, mais on dirait que l'air même lui manque, parti pour contempler lui aussi Cléopâtre et laissant dans la nature un trou. La barque accoste. Un messager d'Antoine invite Cléopâtre à souper. Elle refuse. Mieux vaut que ce soit lui qui vienne. Elle le convie instamment, notre galant Antoine, à qui femme jamais n'entendit dire non, se fait coiffer, rasé 10 fois, se rend à la fête et, pour écho, paye de son cœur ce que ses yeux ont dévoré. Je l'ai vu un jour, sauter à cloche-pied dans la rue. Au 40e bond, perdant souffle, elle s'arrête, veut parler, palpite, et faisant de sa gêne une grâce de plus, triomphe dans la défaillance. Mécène, à présent, c'en est fait. Antoine va devoir lui dire adieu pour toujours. Et nos Barbus, Antoine ne lui dira jamais adieu. Les années passeront sans la flétrir. Son extrême diversité met au défi la lassitude. Toute autre femme, en se prêtant au désir qu'on avait d'elle, l'exténue, mais elle, plus elle assouvie, plus elle excite. Il n'est rien de vil, de honteux qui ne paraisse saillant en elle, à ce point que les saints prêtres la bénissent au milieu de ses débordements. William Shakespeare, Antoine et Cléopâtre.
Et comment avez-vous fait, Renfrain, avec les scènes clés? Parce qu'on sait, que ce soit au cinéma, dans la peinture, dans la littérature, il y a toujours certaines scènes qui reviennent toujours quand on raconte Cléopâtre. Alors, oui. La rencontre de Cléopâtre et de César dans le tapis, ensuite la rencontre avec Antoine à Tarse, la fameuse scène où elle met une perle dans du vinaigre. Comment vous avez fait avec toutes ces scènes?
Il y en a bien entendu certaines qui sont fausses. J'étais une perle dans le vinaigre, elle ne va pas se dissoudre, déjà. Vous allez voir un joaillier, il va vous le dire. Donc ça, vous savez que c'est la légende. Tars, on a quand même le témoignage de Plutarque, qui est quand même un type sérieux. Hein. Les Ptolémées étaient spécialistes de ce genre de choses. La grande mise en scène ptolémaïque, c'est généralement sur un bateau. Hein. Ils sont des grands constructeurs de bateaux. Ils ont fait des mises en scène, tous les Ptolémées. On sait par exemple que un de ses ancêtres avait fait faire des grandes cérémonies pour Dionysios et avait construit quand même un phallus de 80 mètres de haut avec du doré partout et des petits rubans pour figurer les poils. Et ça allait sur des chars dans les rues d'Alexandrie. Donc à partir du moment où vous avez fait ça pour Dionysios, c'est Tars avec les filles toutes nues qui arrivent jetant des parfums et des roses avec Antoine, dont on savait que c'est quand même un grand amateur de femmes. C'est presque pas grand-chose à côté. Elle avait l'idéal de l'inimitabilité. Et c'est pour... Qu'est-ce que c'est de vouloir être imitable? Eh bien, c'est de vouloir être une star. À notre époque, ça s'appelle être une star. Si vous regardez, par exemple, l'ascension d'un personnage à notre époque, comme Lady Gaga. Bon, Lady Gaga, elle s'est inventé un personnage inimitable. Alors, évidemment, Cléopâtre, c'est pas Lady Gaga. On va pas dire ça, mais c'est une intelligence supérieure associée à un sens de la communication et du spectacle absolument éblouissant, suprême.
Et vous parlez très bien dans votre livre de cette confrérie des inimitables. Alors, ça semble incroyable.
Si j'ai écrit ce livre, c'est à cause de la confrérie des inimitables. J'avais lu cette histoire dans un texte de mon professeur Pierre Grimal qui s'appelait « L'amour à Rome ». Et j'avais l'impression de lire une histoire à la Fitzgerald. Alors, en effet, c'est la période où Cléopâtre et Antoine sont dans cette sorte d'amour mystico-politico-religieux. Et ils fondent une confrérie de 12 personnes. Juste le fait de fonder une confrérie, c'était assez typique des Grecs d'Orient. Alors, ils se font des banquets, ils s'enivraient, et la spécificité, c'est que ceux-là se faisaient des concours, se lançaient des défis, ils se déguisaient. Donc, il y a eu un moment, un d'entre eux qui s'est peint en bleu, déguisé en triton. Enfin, ça pouvait peut-être être un peu sexuel. Ça, on ne sait pas. Et ce qui est phénoménal, c'est qu'à partir du moment où ils savent la dernière année qu'ils se sont foutus, parce que Octave les poursuit, Antoine est en dépression, et pour sortir d'Antoine de cette dépression, elle va dissoudre le club des inimitables et elle va fonder la société des amants de la mort. L'idée étant d'avoir accès à l'autre monde et de pouvoir en revenir, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté par la drogue, enfin on appellerait ça la drogue, et de pouvoir en revenir. Alors ça paraît totalement décadent, c'est assez hollywoodien aussi, et on sait que avant la chute d'Alexandrie, ils ont eu un dernier banquet, 12 personnes, de cette fameuse société des amants de la mort, banquet qui ressemble quand même très étrangement à ce qui se passera en l'an supposé 33 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans après, dans un lieu nommé Jérusalem, et qui s'appellera la Kéna, c'est-à-dire la scène, l'ultime repas.
Cléopâtre, de Georges Mankiewicz. Voilà, je crois que c'est là. Voilà, donc la ville se prépare à accueillir Cléopâtre.
que César fait entrer à Rome. C'est aussi l'entrée de la monarchie dans la République romaine. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de la parade à l'américaine. Des confettis, des fumées jaunes, rouges, des danseuses nues, des foulards, des cavaliers.
L'arrivée de Cléopâtre à Rome, officiellement pour féliciter César de son titre de dictateur à vie, est évidemment une des scènes les plus spectaculaires de ce film de 1963. Et ce qui est assez saisissant, c'est le contraste entre la démocratie romaine, qui est une démocratie exclusivement masculine, avec une image de la femme égyptienne plutôt libérée. Les spectateurs romains, donc occidentaux, voient apparaître non seulement un certain nombre de suivantes tout à fait dénudées, mais voient aussi, bien sûr, une souveraine arriver et qui n'est rien moins que triomphale. Elle arrive en fait avec ses coutumes. Et à certains moments de ces scènes, Cléopâtre est filmée comme étant supérieure à César lui-même.
Donc là, c'est le moment où le sphinx est tiré par, on pourrait dire, une centaine d'esclaves casqués avec des baudriers et qui donc voilà, traînent à pied le sphinx sur lequel est juché Cléopâtre avec Césarion, tous deux vêtus d'or. Le sphinx passe tout juste dans l'Arc de Triomphe.
Rome n'a rien connu de pareil depuis Romulus et Rémus.
C'est probablement la scène la plus significative du film quant à cette image de Cléopâtre et c'est une image qui est tout à fait fausse. Cléopâtre est arrivée à Rome de manière tout à fait discrète et il y a vécu de manière tout à fait discrète dans une villa appartenant à César, hors de la ville, sur les bords du Tibre.
Et il s'inspirait de qui, de quoi pour imaginer cette scène, Mankiewicz ?
Pour autant que je sache, de rien.
Donc celle-là, c'est une véritable invention ?
C'est une pure invention. Cléopâtre n'est jamais arrivée à Rome de cette manière-là.
Sur cet étrange oreiller reposait une tête bien charmante, dont un regard fit perdre la moitié du monde. Une tête adorée et divine, la femme la plus complète qui ait jamais existé, la plus femme et la plus reine. Un type admirable auquel les poètes n'ont pu rien ajouter et que les songeurs trouvent toujours au bout de leurs rêves. Il n'est pas besoin de nommer Cléopâtre. Ce jour-là, elle avait pour coiffure une espèce de casque d'or, très léger, formé par le corps et les ailes de l'épervier sacré. Les ailes, rabattues en éventail de chaque côté de la tête, couvraient les tempes, s'allongeaient presque sur le cou et dégageaient par une petite échancrure une oreille plus rosée et plus délicatement enroulée que la coquille d'où sortit Vénus, que les Égyptiens nomment Hathor.
Continue à Cléopâtre. Je voudrais qu'il m'arrive à quelque chose. Une aventure étrange, inattendue. Le chant des poètes, la danse des esclaves syriennes, les festins couronnés de rosée et prolongés jusqu'au jour, les courses nocturnes, les chiens de Laconie, les lions privés, les nains bossus, les membres de la confrérie des inimitables, les combats du cirque, les parures nouvelles, les robes de byssus, les unions de perles, les parfums d'Asie, les recherches les plus exquises, les somptuosités les plus folles, rien ne m'amuse plus. Tout m'est indifférent. Tout m'est insupportable.
On voit bien, dit tout bas Charmion, que la reine n'a pas eu d'amant et n'a fait tuer personne depuis un mois. Fatiguée d'une aussi longue tirade, Cléopâtre prit encore une fois la coupe posée à côté d'elle, y trempa ses lèvres et, mettant sa tête sous son bras avec un mouvement de colombe, s'arrangea de son mieux pour dormir. Charmion lui défit ses sandales et se mit à lui chatouiller doucement la plante des pieds avec la barbe d'une plume de paon. Le sommeil ne tarda pas à jeter sa poudre d'or sur les beaux yeux de la sœur de Ptolémée. Théophile Gautier, Une nuit de Cléopâtre.
À la fin du 19e siècle, les écrivains français n'auront de cesse que d'inventer une Cléopâtre décadente, qui a un certain nombre de problèmes avec les canons moraux, avec les canons de comportement, parce qu'ils sont eux-mêmes en pleine crise, crise symboliste, crise des valeurs, crise d'écriture, et ils s'interrogent sur eux-mêmes. Et donc Cléopâtre est évidemment une manière de parler de soi, et de parler de sa culture, et de parler de sa civilisation.
Théophile Gautier a évoqué la figure de Cléopâtre, il l'a évoqué avec beaucoup de cruauté dans une nouvelle qui s'intitule « La nuit de Cléopâtre ».
Oui, alors en 1838, il publie dans la presse une nouvelle, en effet, intitulée « Une nuit de Cléopâtre ». Alors là, qui montre une reine voluptueuse, totalement indifférente et dépourvue de sens moral. Alors c'est une débauche descriptive, extrêmement savante finalement, puisque Gautier avait lu à peu près tout ce qui s'écrivait à ce moment-là. N'oublions pas, Champollion est mort quelques années auparavant. Donc l'égyptologie n'existe pas encore. Par contre, on est en pleine égyptomanie. La galerie égyptienne du musée du Louvre vient d'ouvrir, donc c'est une époque qui est baignée dans l'atmosphère égyptienne.
Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans Shakespeare, bien évidemment, et quelque chose qui va donner au personnage de Cléopâtre, d'un seul coup, une réalité, une vérité
Jean-Marcel Imbert.
Que jusqu'alors, on n'avait pas du tout appréhendée. Et ça, ça va rendre le personnage à la mode, et je dirais que, bon, très bien, les reprises de Shakespeare, ça a joué un rôle, mais Théophile Gautier, pour moi, a certainement joué un rôle extrêmement important dans cette redécouverte romantique du personnage de Cléopâtre.
C'est tout de même une Cléopâtre qu'on n'avait pas trop rencontrée jusque-là. C'était une Cléopâtre extrêmement cruelle et puis une Cléopâtre extrêmement lascive. C'est-à-dire qu'elle, il faut rappeler la trame de cette nouvelle. Donc elle s'ennuie dans son palais, survient un jeune homme d'une grande beauté qui est fou amoureux d'elle et elle décide de lui accorder une nuit, mais il devra mourir au lever du soleil. Et puis bon, voilà, c'est vraiment la femme fatale dans toute sa splendeur.
Mais en même temps, on y décrit des fastes absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'elle va en même temps lui faire servir un banquet fabuleux. On est toujours pris entre ce personnage de femme fatale qui fait ce qu'elle veut et qui va jusqu'aux limites de ce que même la bienséance, je ne sais pas comment on doit caractériser cela, peut autoriser. Mais en même temps, c'est toujours le faste et quelque chose qui fait rêver. Et puis, il y a quand même aussi le tableau de Cabanel, c'est Cléopâtre en train d'essayer des poisons sur les condamnés à mort. Alors, on se trouve dans un décor qui reprend plus ou moins le temple de Philée. Cléopâtre est allongée sur un sofa. Elle a ses léopards favoris à ses pieds. Bon, et puis, elle a une servante à côté d'elle. Et au loin, on voit des malheureux qui se tordent dans d'affreuses douleurs et dès qu'ils sont morts, on les emmène et puis on en amène d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que Cléopâtre se dit « Un jour, j'en aurai marre et je voudrais me suicider, donc je vais essayer de voir quelles sont les meilleures solutions. » Et elle a commencé par les poisons. Alors les poisons, déjà, il y a de quoi faire parce qu'il faut trouver le poison qui soit à la fois rapide et sans douleur. Donc elle s'est dit « Autant essayer. »
L'idée, c'est comment sortir de la vie en étant décent. Plutarque le raconte, elle n'a pas cessé dans les dernières années de chercher le moyen qui lui permettait d'être présentable dans la mort. Et c'est vraisemblable, hein, les petites vipères du désert, si vous êtes mordu par une dizaine de ces petites vipères, la mort est très rapide. Et en plus, il n'y a pas de déformation des traits du visage. Pas de convulsion. Elle avait essayé de se suicider déjà. On l'en avait empêché. Donc, Cléopâtre, il faut voir aussi qu'en tant qu'orientale, une des formes de son intelligence, c'est la ruse.
À présent, je dois me préparer à m'en aller.
Que souhaites-tu ?
Avant tout, je voudrais manger quelque chose.
C'est là qu'elle va demander à ses servantes d'amener son panier de figues, et la vipère va la mordre. C'était vraiment aussi cette idée de vengeance au-delà de la mort, hein, puisqu'elle voulait se venger d'Octave, son pire ennemi, responsable de la mort de Marc-Antoine et de la disparition de l'Égypte. Parce qu'aussi, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, elle incarne aussi au-delà la dernière reine d'Égypte.
D'autres auraient cédé, peut-être, mais elle ne pouvait pas imaginer. Parce que le triomphe à Rome, c'était pas drôle. Hein. On marchait attaché à ce qui voulait dire aussi que toute une bonne partie de sa cour allait être emmenée en triomphe à Rome et qu'ensuite ils sont assassinés publiquement.
Parce que le risque, ce à quoi Cléopâtre voulait échapper, c'est de faire partie du triomphe d'Octave. Absolument. La manière dont Vercingétorix faisait partie de celui de César.
Oui. Donc elle a choisi la mort.
Et le Romain demanda : trouves-tu que ta reine a bien agi ? Et la servante répondit « Extrêmement bien. Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains. »
Assez extraordinaire, puisque là, encore une fois, on sent le travail. D'ailleurs, les auteurs grecs et romains sont cités au scénario du film de Mankiewicz. C'est assez incroyable de voir Suétone, Plutarque et Dion Cassius, je crois, le troisième.
Et Mankiewicz arrive finalement, alors que le film avait déjà commencé à être réalisé,
Daniel Lançon,
qu'il est abandonné, et il reprend en fait la question, et il la reprend à partir de son expérience propre, qui est une expérience cinématographique qui est déjà relativement longue, dans laquelle il avait mis en scène des femmes, Ève en particulier, dans un film précédent, il avait mis en scène la question du rapport des sexes et la question féminine. Donc on peut penser que c'était un domaine qui l'intéressait particulièrement et évidemment exemplarisé par cette figure incroyable, historique et transhistorique qu'est Cléopâtre, bien sûr. Bien évidemment, Cléopâtre s'inscrit dans l'histoire de la question féminine, voire féministe à certains moments, voire aussi, à d'autres moments, la question de la guerre des sexes. La plupart des 130 ou 140 pièces, essais historiques, romans que nous avons en Occident, dans des langues européennes, disons, de la Renaissance au début du XXe siècle, sont des ouvrages écrits par des hommes. Et c'est une constante interrogation sur la nature de la féminité, le degré de la féminité, à tel point par exemple que certains romanciers, quand ils valorisent Cléopâtre, valorisent sa virilité, c'est-à-dire construisent un certain nombre de catégories masculines pour pouvoir dire qu'elle est une grande souveraine.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Carmen, qui a été écrit un peu à la même époque que la nouvelle de Théophile Gautier et qui représentait également une femme libérée, qui était une image qui a fait scandale à l'époque, qui était une vision tout à fait nouvelle. Cette Carmen qui veut faire ce qu'elle veut avec les hommes dont elle a envie au moment où elle les rencontre.
Moi, je me suis tout simplement dit, qu'est-ce qui se passe si on changeait les caméras de place ? Jusqu'à maintenant, ai-je observé, on a placé les caméras du point de vue de l'Occident,
Irène Frein,
du mâle et du vainqueur. Qu'est-ce qui se passe si on place des caméras d'un autre côté, du côté de l'Orient, de la femme et du vaincu ? Est-ce qu'on voit apparaître à nouveau le fatale monstrum, la séductrice, etc. ? Et en fait, ce qui apparaît, c'est une femme politique qui, à un moment de sa vie, devient de plus en plus politico-mystique. C'est-à-dire qu'elle considère que le monde connu ne saurait être gouverné que si on apporte, outre la langue, qu'elle espère être la langue grecque, bien entendu, une mystique qui permette aux hommes d'avoir un au-delà et un espoir après la mort, ce qui leur manque cruellement. Ce qui est le principal apport des religions orientales. N'oublions pas, le christianisme naîtra 50 ans après la mort de Cléopâtre. Hein.
Même son suicide avec les aspics, qui paraît un peu pitoyable aux Romains, est en fait très étudié, puisque Cléopâtre est une déesse. C'est la fille de Ré, se compare à Isis. Et comme vous savez, donc, l'aspic a été, en tant que serpent, assimilé aussi au cobra, donc qu'on appelle aussi l'uréus, que vous trouvez au front des pharaons, qui est représentatif justement à l'incarnation de l'œil du soleil. Donc en se faisant mordre par le serpent, eh bien la déesse égyptienne rejoint en fin de compte son père par l'essence, et on reste dans une cohérence tout à fait subtile et importante par rapport à l'égyptianité, si vous voulez, que Cléopâtre veut montrer et qui a été le maître mot en fin de compte de sa défense de son royaume d'Égypte et de préserver donc ses intérêts par rapport à la puissance de Rome.
Sers-toi du génie romain de la destruction, démolis les pyramides, rase les cités. Comment oses-tu, toi et tous tes barbares, mettre le feu à ma bibliothèque? Tu peux jouer les conquérants tant que tu veux, puissant César. Viole, tue, pille, anéantis des millions de vies humaines. Mais ni toi, ni aucun autre de tes barbares n'a le droit de détruire une seule pensée humaine.
Ça suffit!
Cléopâtre, elle a servi à vendre du savon, des bains moussants, même de la colle. Moi, j'ai longtemps habité près d'un immeuble qui, un atelier qui vendait la colle Cléopâtre. Sous-entendu que c'était un pot de colle, cette Cléopâtre. Vous voyez, tous les fantasmes s'y sont mis.
Allons-y, essayons la chèvre. Encore un petit peu de chèvre. Là, pas trop. Voilà. Le lait de vache, le lait de chèvre ou le lait d'ânesse? Lequel, à ton avis, adoucit mieux la barbe?
Merci à Philippe Boyer, Dimitri Casali, Marc Étienne, Irène Frein, Jean-Marcel Imbert, Daniel Lançon et Claude Richard. Merci aussi au musée du Louvre et au musée Gustave Moreau. Extrait de film Cléopâtre de Cécile B. 2000 et Cléopâtre de Georges Mankiewicz. Texte lu par Sophie Doll, Une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier et Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare. Mixage Jean-Richard Dufour, Cléopâtre, Perrine Kervran, Anne Fleury.
Voilà pour ce mythe de Cléopâtre en documentaire. Vous pouvez toujours l'écouter sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com. Le réécouter également sur ce site, le télécharger pendant une semaine, comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire. Et vous pouvez donc télécharger les émissions de cette semaine depuis lundi. Vous pouvez également laisser vos commentaires sur ce site, ainsi que sur l'adresse fabrique@radiofrance.com. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu. Et puis, je rappelle que nous avons également le plaisir d'avoir Tao Saïdzi Slimane qui, sur son site fabrique de sens.net, retranscrit sur internet donc certaines des émissions de la Fabrique de l'Histoire ainsi que d'autres émissions de France Culture, Fabrique de Sens. .net. Voilà, demain nous traiterons de la vraie Cléopâtre. Peut-on savoir qui était d'ailleurs la vraie Cléopâtre? C'est une question que nous poserons à partir des travaux récents des historiens, donc dans un débat du jeudi de la Fabrique de l'Histoire.